Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue du grain à moudre d'été ce soir. A-t-on gagné la guerre contre le terrorisme ? Des faisceaux de lumière hier soir dans le ciel étoilé de Nice, 86 colonnes blanches en hommage aux 86 personnes tuées sur la promenade des Anglais il y a 3 ans, toutes victimes de l'attentat le plus meurtrier en France depuis les attaques du 13 novembre 2015. 2015, année charnière pendant laquelle le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, avait déclaré la guerre au terrorisme. Depuis, la France s'est organisée, les services de renseignement ont été renforcés, les opérations militaires prolongées sur le territoire national et à l'étranger. Daesh a d'ailleurs été vaincu au Levant. La France a aussi changé ses lois ainsi que l'organisation de son appareil judiciaire. Un nouveau parquet a été créé, le parquet national antiterroriste. C'est tout récent. Cela date du début du mois. Ces modifications nombreuses coïncident aussi avec une baisse du nombre d'attentats. Il y en a eu un cette année à Lyon, une attaque en 6 mois. Il y en avait déjà eu 4 déjà l'an dernier à la même période. D'où cette question, a-t-on gagné la guerre contre le terrorisme ? Pour en parler, 3 invités, Anne-Clémentine Larocque, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférences en questions internationales à Sciences Po, vous travaillez sur l'islamisme, vous êtes l'auteur notamment de Géopolitique des islamismes et de l'islamisme au pouvoir, de livres publiés par les presses universitaires de France. En face de vous, Jean-Charles Brizard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président du Centre d'analyse du terrorisme et vous revenez de Syrie, c'est il y a quelques jours, nous en parlerons au cours de cette émission. En duplex d'Aix-en-Provence, Hugo Micheron, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sciences politiques, vous venez de soutenir votre thèse, travail sur la sociologie politique du djihadisme français entre 1989 et 2019. Vous êtes aussi chercheur à l'École normale supérieure.
J'ai donc choisi Pau pour venir exposer les raisons pour lesquelles la France est engagée dans la lutte contre le terrorisme, pourquoi la France restera engagée dans cette lutte. Qui est une lutte qui doit s'inscrire dans le temps long et qui est une menace, qui est à la fois la première préoccupation de nos concitoyens et qui est aussi la première préoccupation et le premier objectif du ministère des Armées.
La ministre des Armées, Florence Parly, en visite à Pau, c'était il y a 1 mois, un engagement à long terme contre le terrorisme qui reste une menace, dit-elle. Avant d'évaluer le niveau de cette menace, une question, quand on parle de terrorisme aujourd'hui, on pense assez facilement au terrorisme islamiste. Est-ce qu'il est la seule menace, Jean-Charles Brizard, ou est-ce qu'il en existe d'autres en France ?
Non, bien sûr, ça n'est pas la seule menace. D'ailleurs, là, je me permets de revenir sur la question elle-même que vous posez, à savoir, a-t-on gagné la guerre contre le terrorisme ? Difficile de répondre, puisque le terrorisme, c'est un mode d'action qui est portée par des organisations, des individus que l'on peut effectivement entraver, neutraliser à un moment donné, mais le phénomène terroriste, le mode d'action en tout cas, on ne peut pas évidemment gagner contre lui.
C'est ce que souligne aussi le chef d'état-major des armées.
Voilà, la France a déjoué ces derniers mois des attentats qui effectivement avaient pour inspiration l'ultra-droite notamment. Hein. Et donc ça n'est pas le seul terrorisme auquel on est à faire face en France notamment. Il y a un terrorisme d'inspiration également régionaliste qui continue à exister et qui est traité de la même manière par les autorités. Donc non, ça n'est de loin pas la seule forme de terrorisme à laquelle on a à faire face.
Restons en tout cas sur la menace islamiste. C'est essentiellement de cette menace qu'on va parler dans cette émission ce soir. Un attentat cette année, je le disais pour le moment, celui commis rue Victor Hugo à Lyon, fin mai, 13 blessés légers. Il y avait eu 4 attentats l'an dernier à la même époque. Est-ce que cela veut dire, Anne-Clémentine Larocque, que le niveau de menace a baissé aujourd'hui en France ?
Le niveau de menace s'est transformé et on l'a vu. Il faut toujours réfléchir en fait quand on parle de terrorisme islamiste aux différentes échelles d'intrication en fait de ce phénomène. C'est-à-dire que vous avez du local, du national, du régional et même de l'international. Et quand effectivement on parle de fin de l'État islamique, de fin de la menace, c'est totalement illusoire dans le sens où vous avez bien sûr une menace qui se transforme, une recomposition en fait des structures, une recomposition aussi de la propagande, des modes de communication. Et donc sur le territoire national, en effet, on a moins d'actions. On l'a dit aussi, les services de renseignement se sont structurés. Il y a quand même aussi un discours et un dialogue entre les ministères qui fait que on peut coordonner quand même une pensée du contre-terrorisme et de l'antiterrorisme. Mais la menace reste extrêmement importante au niveau idéologique. C'est-à-dire que l'idéologie n'a jamais été aussi présente sur toute la planète de cette manière-là. Vous avez quand même des gens qui, en Afrique australe, ont aujourd'hui des cellules de l'État islamique. On en a aussi en Asie du Sud-Est, on en a eu au Sri Lanka, au Bangladesh. Et ça, je veux dire, c'est quelque chose qui n'existait pas.
Et ça, c'est nouveau, ça n'existait pas il y a quelques années encore.
Il y a eu une mondialisation, bien sûr, avec Al-Qaïda, mais avec ce point d'ancrage, en tout cas, des cellules de l'État islamique, et cette capacité à exister aussi médiatiquement dans ces contrées-là, c'est la première fois que ça se passe.
Hugo Micheron.
Oui, en fait, Daesh, en tant que, qu'organisation et entité proto-étatique au Levant, a été vaincu militairement. Ce qui n'a pas été vaincu, c'est le djihadisme en tant qu'idéologie. Et je vais dans le sens des propos qui viennent d'être tenus, dans le sens où le djihadisme en tant qu'idéologie ne se limite évidemment pas qu'au mode d'action que sont les attentats, et ne se limite et ne disparaît pas également avec la fin de Daesh. Et donc il conviendrait dans cette période actuelle de ne pas refaire les mêmes erreurs que celles de la décennie passée, qui considéraient à la fin des années 2000, au moment où Al-Qaïda au Maghreb islamique se portait pas très bien, au moment où Ben Laden était tué en mai 2011, de considérer que finalement on en avait fini avec le djihad global, alors qu'en fait on était en période de mutation et que trois années plus tard surgissait du chaos syrien Daesh. Donc là, Daesh en tant qu'entité califale ou pseudo-califale a été vaincu. Maintenant, il faut voir comment l'idéologie va évoluer dans les prochaines années et il faut donc s'intéresser aux nouveaux espaces du djihad. Et de ce point de vue-là, la prison, la question de la détention est importante puisque c'est devenu le premier foyer humain de djihadistes en France.
Jean-Charles Brisard.
Bon, effectivement, ce qui a été dit est tout à fait juste. On a, si vous voulez, il n'y a pas de corrélation en réalité entre la défaite militaire de Daesh. Et encore, il faut être très prudent sur ce qu'on entend par défaite militaire. Vous le disiez, je reviens de Syrie, de Raqqa et de plusieurs autres villes arabes, dans le nord-est syrien, à Inissa par exemple, où survivent de nombreuses cellules clandestines qui frappent chaque semaine, quasiment, ces villes. Donc c'est vrai qu'il y a eu... ces villes sont d'abord détruites pour beaucoup. Raqqa est détruit à 80%. Il y a des cellules qui demeurent. Il y a très peu de forces de sécurité parce que ceux qui assurent la sécurité dans cette partie de la Syrie, ce sont les Kurdes. Et ils n'entrent pas dans Raqqa ou très sporadiquement. Le reste du temps, ils ne veulent pas provoquer les Arabes. Donc il y a un véritable risque qui est souligné localement, en tout cas, qui est perceptible, de résurgence de cellules terroristes organisées pro-Daesh, bien sûr, dans cette région. Donc il y a un terrorisme. Je le disais, il n'y a pas de corrélation. Pourquoi ? Parce que il y a d'abord ce terrorisme exogène qui vient principalement, qui venait en tout cas de la zone syro-irakienne, qui n'a pas disparu. On assiste plutôt à une transformation, une réorganisation des choses, ça a été dit. L'organisation est redevenue ce qu'elle était, à savoir un mouvement insurrectionnel, clandestin, qui frappe encore une fois, au quotidien, que ce soit en Irak ou en Syrie, et qui est donc à tout moment susceptible de reprendre prise sur un certain nombre de villes. Raqqa en est un exemple, je l'ai dit. On a aussi un autre phénomène, c'est que on a un déplacement de la menace, c'est-à-dire qu'un certain nombre de djihadistes qui étaient sur zone, ceux qui n'ont pas en tout cas été capturés, rejoignent des zones de repli qui existent encore sur le terrain, en Syrie, en Irak, mais surtout essayent aussi d'aller à l'étranger. Et c'est ainsi qu'une cinquantaine de Français ont rejoint d'autres théâtres d'opérations en Afghanistan, au Sinaï, en Libye.
Et la France ? Et en France, est-ce que certains d'entre eux sont rentrés clandestinement?
Non, clandestinement, non, on peut pas dire ça. Non. La plupart sont arrêtés aux frontières, d'ailleurs bien en amont, souvent aux frontières turques et donc remis à la France. Mais ça veut dire que la menace est là, ça veut dire que ces individus ne renoncent pas. J'en veux pour preuve aussi le fait que dans les camps de détention, camps de détention notamment de femmes au Kurdistan syrien, il y a une vraie problématique puisque ces femmes demeurent extrêmement virulentes et les autorités se rendent compte qu'elles vont devoir mettre en place, avec les faibles moyens qui sont les leurs, mais mettre en place donc des prisons dédiées aux femmes djihadistes, parce qu'il y a véritablement un souci. Il y a eu des tentatives de mutinerie, des tentatives d'évasion également dans plusieurs camps, et c'est une préoccupation pour eux qui est immédiate. Et puis donc la deuxième dimension de la menace, outre la menace exogène, c'est, vous l'avez dit, la menace endogène, celle qui relève de l'idéologie, effectivement, qui est toujours ancrée dans l'esprit de nombreux djihadistes dans nos pays. Alors vous parliez des chiffres statistiques, effectivement, on peut leur faire dire ce que l'on veut. C'est vrai que le nombre d'attentats a baissé, mais paradoxalement, le nombre de projets d'attentats déjoués est quasiment au même niveau que les années précédentes. Donc ça veut dire que la menace, l'intensité de la menace, en réalité, elle n'a pas faibli.
Anne-Clémentine Larocque.
Oui, par rapport à ce qui vient d'être dit, je suis d'accord. Et ce qui est assez intéressant à étudier, c'est leur capacité à revitaliser des espaces, des territoires, Hugo Michon le disait tout à l'heure, qui ont été des espaces de djihad, déjà comme l'Afghanistan, hein, l'État islamique au Khorasan, le Khorasan qui correspond à une région qui historiquement, lors du califat abbasside, était une région extrêmement porteuse, c'est une partie de l'Iran, l'Afghanistan et les pays qui sont justement en Asie centrale. Aujourd'hui, on réhabilite cette capacité à pouvoir eh bien être légitime et à manifester, encore une fois, la création d'un proto-État. Quand on regarde donc cette région-là, c'est intéressant. On peut regarder aussi la Libye. La Libye a été vue, à un moment donné, comme une succursale de l'État islamique, voulue, hein, et même concrète, puisque vous avez eu l'investissement des zones pétrolières, la création donc de cet État islamique en Libye, qui devait être donc la succursale. Ils ont réussi en Libye à vaincre l'État islamique à la fin 2016. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a à nouveau des Kadibas et à nouveau des cellules qui se réorganisent grâce aussi au maillage africain, c'est-à-dire que vous avez des Sénégalais, par exemple, qui peuplent les cellules de l'État islamique en Libye, et vous avez dernièrement le prêt d'allégeance à Abou Bakr, donc al-Baghdadi, qui reste le calife, entre guillemets, bien sûr.
Et qu'on a vu dans une vidéo il y a quelques...
Exactement,
quelques
le 29 mai, donc il y a une réhabilitation, et on renforce à nouveau une capacité à montrer qu'on est unis. Hein. Et l'idée, c'est justement de le diffuser. Et ça, c'est leur force aussi, entre guillemets, c'est qu'il y a une volonté de montrer qu'ils ne sont jamais morts, et qu'ils savent, de toute façon, eh bien, réagir plus vite, entre guillemets, que nous.
Revenons en France, Hugo Micheron, d'où vient la menace qui pèse sur la France, la menace terroriste? Est-ce qu'elle est exogène ou endogène?
Mais en fait, j'aurais tendance à lier les deux parce que finalement, le djihadisme de Daesh a été à son apogée en 2015. Et depuis, les capacités opérationnelles qui s'étaient tissées entre la France et la Syrie ont été cassées, résultat de la campagne de la coalition au Moyen-Orient, et du fait que désormais, ces djihadistes, même s'ils existent sous forme clandestine encore au Levant et qui continuent d'harceler les positions, notamment arabo-kurdes, sont malgré tout en déroute. Ils ne sont pas en train de parader. En 2015, il faut rappeler qu'ils possédaient un territoire qui était de la superficie de la Grande-Bretagne. Ils avaient le contrôle sur une population de près de 8 millions d'habitants, ce qui veut dire des recettes colossales par la prédation, etc. Tout ça est perdu pour l'État islamique. Ils se cachent pour la plupart littéralement sous terre. Donc on a quand même changé totalement d'époque avec, par exemple, 2016, date il y a 3 ans des attentats de Nice. On n'est plus du tout dans la même temporalité. Et de ce point de vue-là, au niveau endogène, les djihadistes qui sont notamment en prison en France, pour la plupart, restent convaincus du djihadisme, mais déçus de Daesh en tant qu'organisation, et ont anticipé la défaite de l'entité territoriale qui était Daesh au Moyen-Orient. Et donc, du coup, ils se préparent à d'autres formes. Ils ont dit, bah, finalement, si la défaite militaire, en tout cas, si Daesh n'a pas rempli, n'a pas accompli les espoirs qu'ils avaient placés dans cette organisation, eh bien, c'est qu'il faut attendre. Et de ce point de vue-là, l'enjeu pour eux, c'est de déployer, de toucher un maximum de gens. Parce que le calcul des djihadistes, ceux que j'ai pu rencontrer en tout cas en prison, j'en ai rencontré 80 au cours de mes recherches, est le suivant. À 2000, ils étaient 2000 Français impliqués dans les réseaux de Daesh, ils ont été capables de bousculer l'ordre sécuritaire en France par la multiplication des attentats dans le temps et dans l'espace. Ils se sont rendus compte que finalement, étant derrière les barreaux, leur projet a donc échoué, et donc désormais, il faut être plus nombreux. Et donc, la période de recomposition des forces qu'ils considèrent à l'heure actuelle, c'est bien de diffuser un maximum l'idéologie pour toucher plus de personnes, afin que dans le prochain moment d'opportunité, la prochaine crise, si vous voulez, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord ou ailleurs, ils soient plus nombreux.
Jean-Charles Brizard.
Oui, ce cas pour lui, en tout cas ce mouvement djihadiste, c'est deux éléments. D'abord, ça vient d'être dit, c'est le temps long, hein, la maîtrise du temps, et le fait que une opération, une action va se préparer, se programmer, et éventuellement se réaliser à la faveur effectivement d'un contexte particulier. Ça, c'est une chose. Et puis deuxièmement, ce sont des individus qui agissent localement, mais ils le font au nom d'une idéologie qui, elle, est transnationale. Hein, le djihadisme est global. Et c'est pas nouveau, hein. Al-Qaïda, c'était déjà ça. Mais avec l'État islamique, on a une massification aussi du phénomène, ici en France, avec un nombre d'individus radicalisés qui n'a jamais été aussi élevé, hein, plus de 21 000 inscrits au FSPRT, donc fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Ça veut dire qu'on doit aussi traiter ces individus, d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire détecter surveiller pour effectivement détecter des comportements suspects, des basculements vers la violence, tout ça implique des moyens très importants, sans même parler du volet judiciaire, effectivement, avec, de mémoire, près de 700 dossiers en cours, enfin, procédures en cours, impliquant plus de 1400 personnes. Tout ça aussi, alors c'est vrai que on vient d'annoncer la création, on vient de créer le parquet national antiterroriste qui est là aussi pour finalement purger hein, ce contentieux. Qui
26 est magistrats énorme. Vont s'en occuper. Hein,
26 magistrats pour l'instant, un 27e je crois qui arrive bientôt. Donc voilà, ce sera une force de frappe, un nouvel élément extrêmement important, une équipe dédiée surtout à 100% à ces questions pour traiter effectivement un flux extrêmement important de dossiers. Ça ne va pas s'arrêter, ça ne va pas se tarir.
Vous parlez, Jean-Charles Brizard, du parquet national antiterroriste. Son patron, le procureur de la République antiterroriste, donc Jean-François Ricard, dit aussi, lui, que les phénomènes terroristes fonctionnent par vagues de 2 à 5 ans. Il connaît le dossier, hein. Il a été juge antiterroriste il y a quelques années, dans les années 90. Cette vague de phénomènes terroristes, Anne-Clémentine Larocque, est-ce que c'est un phénomène que vous avez pu observer?
C'est-à-dire quand on travaille effectivement sur l'islamisme et sur l'islamisme radical particulièrement, on se rend compte que oui, il y a eu des vagues depuis la guerre en Afghanistan, depuis 79 jusqu'en 89. Cette guerre a véritablement cristallisé finalement le monde entier autour de la question du djihad en Afghanistan. Et ensuite, on va avoir effectivement des cycles.
Et aujourd'hui, on en est où alors de ces cycles? Est-ce qu'on est à la fin d'un cycle? Est-ce qu'on est au milieu d'un cycle?
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, on a eu le point culminant pour nous, en tout cas, à partir de Mera, vous avez eu le point culminant finalement en 2015-2016, même si c'est encore des choses différentes, hein. Et qu'aujourd'hui on est dans une phase qui est d'ailleurs le procureur je crois appelle une phase plutôt molle, qui en effet ne doit pas être mal comprise, c'est-à-dire que c'est une phase de réorganisation, on l'a dit tout à l'heure, et de restructuration et de réflexion de l'organisation terroriste. Nous, on est aussi en train de s'adapter à cela, c'est-à-dire qu'on est en train de répondre quelque chose au niveau des institutions, mais c'est vrai que ces cycles-là correspondent aussi à la mouvance, je dirais, et puis à la capacité de cette idéologie à pouvoir s'adapter à une réponse et aussi à un discours, en fait.
Bah, continuons là-dedans et parlons plus précisément maintenant de la lutte, de savoir contre qui on lutte, parce que c'est important quand même pour lutter au mieux contre un ennemi, il faut le connaître. Comment les djihadistes s'organisent-ils depuis la défaite militaire de Daesh en mars qu'on évoquait tout à l'heure, Jean-Charles Brizard?
Alors, les djihadistes, on en a parlé tout à l'heure, hein, ils sont en train de effectivement de se restructurer. Alors sur le
terrain, Levant, hein,
au Levant, oui, parce qu'ils sont en train de se restructurer. D'abord, ils reviennent à une clandestinité qui leur permet d'être beaucoup plus réactifs, d'être effectivement sur le terrain, de continuer à porter des coups hein, au quotidien, et surtout de se renforcer, c'est-à-dire de reconstituer leur capacité opérationnelle. Et on le voit bien. On a parlé tout à l'heure de l'Afghanistan, la Libye. Le Sinaï, on voit de plus en plus d'opérations, de projets d'attentats par exemple, qui viennent de ces zones, qui ne viennent plus de la Syrie ou l'Irak, mais qui ont pour épicentre l'Afghanistan ou la Libye. Ça veut bien dire que ces provinces de l'État islamique, ces provinces lointaines, elles sont en train progressivement de récupérer les capacités opérationnelles, les capacités surtout de projection, et qu'à terme, enfin, encore une fois, ça a déjà été le cas depuis 2016, on a eu plusieurs projets d'attentats ou plusieurs attentats qui étaient conçus dans ces pays. Ça veut dire qu'à terme, il faut s'attendre aussi à une diversification, finalement, des schémas opérationnels, des schémas organisationnels de l'État islamique pour frapper nos territoires. Mais encore une fois, la menace exogène, on ne peut pas la balayer d'un revers de la main et dire qu'elle n'existe plus. Elle est en train de se transformer.
Hugo Micheron.
Oui, j'insiste encore une fois sur l'importance d'intégrer le fait que Daesh, en tant qu'organisation militaire, a mine de rien été battu. Mm-hmm. Et ça, c'est même s'ils existent encore. Et c'est très important, parce que si on regarde la propagande de Daesh il y a 3 ans ou 4 ans, ils annonçaient non rien de moins que la fin des temps. Et vous voyez qu'on est encore là pour parler de Daesh. Donc la fin des temps, a priori, n'est pas encore pour tout de suite. Et d'autre part, la conquête de Rome, de Paris, etc. C'était ça le projet de Daesh. Aujourd'hui, ils sont dans des réduits à Baghouz. La plupart des figures pensantes de djihadisme français, comme les frères Klein, ont été abattus sur place. Donc les autres se tairent. Donc on a vraiment changé d'époque de ce point de vue-là. Ayant dit ça, il faut évidemment compenser l'asymétrie qui a fait la force des djihadistes jusque-là, c'est-à-dire que étant pour la plupart français, ils nous connaissaient mieux que nous connaissions les djihadistes. Et de ce point de vue-là, la violence des attentats de 2015 et 2016 en France ont déclenché, si vous voulez, une prise de conscience aussi bien chez les chercheurs que chez les autorités, qui fait qu'on est en train de rattraper notre retard. Mmh. Et ça, c'est un élément qui me semble très important, c'est que notre retard est en train de s'estomper sur la compréhension du djihadisme global, et donc ils perdent leur effet de surprise. D'autre part, la question est aussi autre que simplement sécuritaire. Il faut absolument dissocier djihadisme et attentat. Le djihadisme est une idéologie, c'est aussi un mode de vie. Ils l'ont montré en Syrie et en Irak. Et ce qu'on a raté ces derniers temps, c'est la capacité à penser le djihadisme entre deux attentats. Et c'est, je crois, l'erreur à ne pas reproduire. À vrai dire, je doute qu'on soit en train de la reproduire. Mais il faut de la continuité dans l'observation de ces dynamiques et surtout la compréhension de ce à quoi elles tendent profondément.
Il y a deux points intéressants que vous venez d'évoquer, Hugo Micheron, c'est la propagande, on va y revenir. Je voudrais qu'on s'attarde un peu sur ce que vous venez de dire, sur la meilleure compréhension qu'on a aujourd'hui de ce qu'est le djihadisme. La question maintenant est de savoir, Anne-Clémentine Larocque, de savoir si la réponse qu'on apporte à cette question, à ce problème, est adaptée et suit ce qu'on a appris de ces djihadistes.
C'est une question évidemment difficile, hein, puisque la réponse, on la travaille à tout niveau, on la travaille au niveau entre une fois des institutions, les chercheurs y pensent. Il y a aussi quand même aujourd'hui une volonté d'agir en fait collectivement avec l'Union européenne. Hein. Vous avez par exemple, hein, je pense à une action d'Europol qui a été menée en 2018 par rapport à la propagande, où ils ont essayé de déstabiliser, entre guillemets, sans rentrer dans les détails, la manière dont fonctionnait l'État islamique sur 2-3 jours. On a regardé les éléments. Les États-Unis étaient aussi associés à cette démarche. Donc il y a quelque part une réponse aussi qui a créé finalement de nouveaux liens entre les institutions, je dirais, des pays concernés par cette problématique. La réponse aussi, c'est, moi j'essaye de le faire au quotidien, c'est de pouvoir aussi expliquer un phénomène extrêmement complexe de manière plus simple que ce qu'ils sous-entendent, et pour éviter évidemment que notre société se retrouve clivée, parce que le problème c'est que c'est ça aussi leur but, c'est de créer des poches, hein, de radicalité pour déstabiliser en fait,
fracturer la société,
et déstabiliser les démocraties et l'état de droit. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui doit être pensé. Et pour ne pas cliver, je pense qu'il faut justement parler du problème et ne pas dire, enfin, on se contente souvent de dire pas d'amalgame, etc. Mais en fait, il faut expliquer que oui, il y a un lien entre islam, islamisme et djihadisme. Lequel? Quel détournement, justement, sémantique, par exemple, l'État islamique peut mettre en place? Ça, il faut le dire à la population. Alors, il faut utiliser des mots assez simples, c'est vrai, parce que c'est complexe, et c'est comme ça aussi qui crée le clivage. Je pense que, déjà, au niveau des mots utilisés par les institutionnels, par les politiques, il y a quelque chose vraiment, vraiment à développer là-dessus.
Et vous trouvez que ça a évolué ces dernières années?
En tout cas,
il y a encore beaucoup de progrès à faire.
Il y a des progrès, bien évidemment, il y a toujours des progrès à faire, mais je pense qu'en tout cas, les institutions essayent de se faire accompagner aussi par des spécialistes, par des gens qui sont capables en fait de décrypter et de voilà, il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué. On est en chemin.
Jean-Charles Brizard.
Oui, c'est une question qui effectivement mérite une approche pluridisciplinaire parce qu'elle est extrêmement complexe. Il n'y a pas que des enjeux sécuritaires, il n'y a pas non plus que des enjeux judiciaires. Il y a des questions sociétales, il y a des questions idéologiques, religieuses qui se posent. Tout ça implique un travail de fond, un travail de longue haleine surtout. Et c'est la raison pour laquelle sur le traitement lui-même, je dis, on a beaucoup fait ces dernières années depuis 2014. Globalement, on s'est adapté progressivement à la menace djihadiste. Hein, on a adopté un certain nombre de dispositifs très particuliers qui s'adaptent précisément au mouvement auquel on avait à faire face. Je crois que pour aller plus loin aujourd'hui, on le voit bien, c'est un terrorisme qui, je l'ai dit tout à l'heure, est extrêmement local. Il faut décentraliser nos moyens d'action. Il faut que véritablement, face à ce phénomène djihadiste, il y ait une véritable mobilisation d'acteurs extrêmement variés, et surtout au niveau local, parce que c'est là que se passe en réalité.
Au niveau local, vous voulez dire en France, sur le territoire national?
En France, bien sûr. Pour encore une fois identifier cette menace, enfin en tout cas ces individus qui sont susceptibles de basculer, prévenir. cette radicalisation. Tout ça, alors il y a eu des premiers pas de fait hein, dans ce sens-là, notamment par le ministre de l'Intérieur à l'égard des maires. Ça ne suffit pas, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut impliquer un nombre d'acteurs importants. Encore une fois, très variés, puisque les capteurs, en réalité, de cette menace, de cette radicalisation, ils sont au niveau local et nulle part ailleurs. Donc on a beau avoir des têtes pensantes à Paris, dans les services, etc., et des services extrêmement compétents, et de plus en plus, parce qu'effectivement, ils ont appris de leurs échecs ces dernières années. Mais je crois qu'il faut aller plus loin dans la prise en compte de ce phénomène.
Anne-Clémentine Larocque.
Oui, on parle effectivement donc des structures institutionnelles et je pense qu'on peut aussi parler de l'école, tout simplement, parce que c'est là où on voit que l'identité en France est discutée, en fait, aujourd'hui. Il y a un problème, évidemment, identitaire, les failles identitaires. Alors, on peut en parler longtemps, les sociologues s'en chargent aussi, mais je pense que, encore une fois, c'est la corrélation de toutes les actions par rapport à ces générations qui arrivent et qui sont quand même baignées hein, dans cette culture du terrorisme. Les enfants savent ce qui s'est passé et c'est vrai qu'ils peuvent être touchés. Si on les touche au bon endroit, malheureusement, par rapport à un legs mémoriel d'origine, etc., ça peut contribuer à une radicalisation. Et c'est vrai que l'école est le lieu, en fait, où les choses peuvent se contrer.
France Culture, du grain à moudre, Antoine Genton.
A-t-on gagné la guerre contre le terrorisme? C'est la question posée dans Du grain à moudre d'été ce soir. Trois invités pour en parler. Anne-Clémentine Larocque, maître de conférence en questions internationales à Sciences Po. Jean-Charles Brizard, président du Centre d'analyse du terrorisme. Et Hugo Micheron, en duplex d'Aix-en-Provence, docteur en sciences politiques et chercheur à l'ENS. Une question, on a parlé de la menace au début de cette émission, une question que je ne vous ai pas encore posée. Est-ce qu'on sait, Jean-Charles Brizard, combien d'attentats ont été déjoués en France ces derniers mois?
Oui, depuis le début de l'année, sept attentats ont été déjoués. Attentats islamistes, hein, d'origine islamiste. On est sur, encore une fois, sur des chiffres qui sont sensiblement les mêmes que ceux de l'an dernier. Ça veut dire que, encore une fois, on est face à une menace qui ne faiblit pas. Elle se transforme. Elle est en train de se transformer en raison principalement de la fin du califat territorial. Ce qui signifie qu'on est face à véritablement une idéologie qui persiste, qui est là et qui est ancrée, encore une fois. Et c'est ce à quoi on doit s'attacher, on doit lutter contre ce phénomène, et c'est extrêmement difficile. C'est principalement le rôle des services de renseignement, mais je pense aussi que de plus en plus, il doit être le fait d'acteurs locaux dans tous les domaines, que ce soit culturel, scolaire, universitaire, associatif, etc., qui peuvent avoir un rôle aussi dans la prévention de ce type de phénomène.
Est-ce que les renseignements ont été renforcés ces derniers mois, ces dernières années?
Bien sûr, on a renforcé à la fois les capacités humaines de ces services de renseignement. Concrètement, on a recruté beaucoup. On a surtout renforcé les capacités juridiques de ces services, notamment pour tout ce qui est en enquête préliminaire, leur capacité de renseignement, les techniques de renseignement notamment, qui ont été mises à jour. Oui, tout ce travail est fait, encore une fois, hein, et on s'adapte progressivement à la menace, ça a toujours été.
Les renseignements, ça se passe aussi en prison, Hugo Micheron, ça c'est un terrain que vous connaissez bien?
Oui, en fait, la prison est devenue, avec la défaite de Daesh sur le front syrien, l'endroit où s'est recomposé un front djihadiste paradoxal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus de djihadistes français derrière les barreaux en France que au Levant. Et du coup, il faut totalement changer notre vision de la prison, parce que ça, c'est une première dans l'histoire de l'Europe, qu'on se retrouve avec 500 djihadistes derrière les barreaux. D'autant plus que la prison a été historiquement, dans les années 2000, notamment en France, mais ailleurs aussi, en Belgique, en Grande-Bretagne, en Allemagne, un incubateur très puissant des idées djihadistes. C'est notamment un des endroits qui a permis aux djihadistes de passer de 80, le nombre qu'ils étaient dans les années 2000 en France, à plus de 2000. Ils touchent un nouveau public qui est par ailleurs à peu près tout ce qu'ils cherchent à conscientiser, on va dire, dans la société de manière générale, des individus très exposés à la récidive, qui ont souvent des parcours de violence et une certaine haine de l'État qui est magnifiée, on va dire, en prison au contact de l'administration pénitentiaire. Et donc tout ça fournit un terreau dans lequel les djihadistes sont finalement assez à l'aise. Donc encore une fois, il ne s'agit pas d'incriminer une institution. La pénitentiaire est le parent pauvre de l'État français, a énormément réagi depuis 2015-2016, mais elle gère aussi en queue de peloton, si vous voulez, un problème que la société dans son ensemble a failli à gérer. Donc la prison est évidemment une institution clé dans les années à venir et l'évolution du djihadisme va énormément dépendre de ce qui va s'y passer.
Vous dites que c'est un lieu paradoxal parce que c'est un lieu de mise à l'écart. La prison est particulièrement des djihadistes pour qu'ils ne nuisent plus. Or, c'est un lieu de concentration, de regroupement. Et là, ça concerne aussi ce que vous disiez tout à l'heure, Hugo Micheron. Et c'est encore plus vrai d'ailleurs en cas de situation, en cas de surpopulation carcérale. Regroupement, c'est exactement ce que cherchent les djihadistes pour s'organiser, pour éventuellement radicaliser des détenus et pour recruter donc.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, ce que cherchaient la plupart des djihadistes en partant en Syrie, c'était aussi se regrouper entre eux, afin d'être plus effectifs et de pouvoir monter des opérations à l'étranger. En prison, de fait, ils sont regroupés. Alors, selon des conditions de détention qui sont très, très strictes, hein, mais il faut totalement changer nos représentations de la prison. Et je me le permets parce qu'on est sur France Culture, on est, de ce point de vue-là, l'otage des théories de Michel Foucault, selon qui la prison est un espace totalement coupé de la société, avec un pouvoir du surveillant qui est quasiment total sur les détenus, jusque sur leur corps, dit Foucault, et on continue de se représenter les choses comme ça, alors que l'observateur qui se rendrait en prison pourrait constater la réalité relativement inverse, c'est-à-dire que finalement, les détenus ont des moyens de pression sur la pénitentiaire, s'organisent en contre-société, et dans ce système carcéral qui est très ouvert, finalement, enfin, en tout cas, à travers les réseaux sociaux, à travers la télé, à travers les liens avec l'extérieur, il est ouvert sur le reste de la société, il n'est pas du tout étanche. Et bien finalement, les djihadistes sont à l'aise là-dedans et ont, à l'heure actuelle, c'est notamment les idéologues que moi j'ai rencontrés à Fleury-Mérogis, à Fresnes ou à Lille Annelin, qui considéraient que passer 10 ans derrière les barreaux, c'était pour eux l'occasion de se renforcer intellectuellement, de lire, de reprendre les études. Et c'est comme ça qu'on a un recruteur de Daesh qui s'inscrit dans un cursus de psychologie, si vous voulez. Et donc, à l'université, à distance, à travers la prison. Et donc, on a des dynamiques comme ça qui sont très paradoxales et qu'il faut absolument comprendre. Donc, la prison doit être remise, si j'ose dire, au cœur de la cité. Et on doit bien comprendre comment fonctionne cet incubateur carcéral du djihadisme.
Jean-Charles Brizard, est-ce que les autorités réfléchissent ont conscience déjà de ce problème et réfléchissent à des solutions?
Ils sont forcés d'y réfléchir. Il y a le renseignement, effectivement, en prison, on en a parlé, l'importance de ce renseignement, détecter les comportements suspects, etc., les basculements. Et puis, se pose la question également, qui a été soulignée dans un de nos rapports il y a quelques temps maintenant, des sortants, c'est-à-dire le renseignement post-carcéral, en réalité, parce qu'il va falloir suivre ces individus qui ont purgé leur peine, et 75% d'entre eux, de ceux qui ont été condamnés pour des faits terroristes auront purgé leur peine d'ici 2022. Donc il y a véritablement un enjeu également à l'égard de ces individus. Par ailleurs, des lieux de regroupement, on parle effectivement de la France, parce que par rapport au phénomène carcéral, il y en a d'autres. Il y en a d'autres ailleurs. Je parlais tout à l'heure des camps de réfugiés au nord-est syrien, où là, effectivement, les individus sont regroupés. Alors certes, des femmes, effectivement, mais très virulentes, je l'ai dit, sont regroupées et fomentent également localement des tentatives de mutinerie, d'évasion. Donc voilà, c'est une réalité que ces djihadistes tentent. On est dans une phase en réalité transitoire. Qu'on soit en France ou à l'étranger, on est dans une phase transitoire, les choses se recomposent et ces individus tentent effectivement de se maintenir entre eux dans des espaces, carcérales ou autres, pour reconstruire quelque chose. Il faut être extrêmement vigilant, suivre ces évolutions et s'y préparer. Donc on a été un peu en retard par rapport à la question des sortants. Un certain nombre de dispositions ont été prises depuis lors. Je pense qu'il faut vraiment véritablement accentuer sur les sortants, parce que c'est une préoccupation qui va se poser. Et on le sait d'abord d'expérience. C'est-à-dire qu'on a vu des Français, certes beaucoup moins nombreux, revenir du théâtre des opérations afghano-pakistanais dans les années 80 et 90, qui, à leur retour, ont été condamnés et ont à nouveau récidivé dans des infractions terroristes. Donc il faut être extrêmement vigilant et surveiller particulièrement ces individus.
C'est la filière de Roubaix. Hein,
Roubaix, c'était la Bosnie, mais il y a eu bien d'autres attentats déjoués, entravés par les services, qui impliquaient des djihadistes qui revenaient d'Afghanistan.
Anne-Clémentine Larocque.
Oui, par rapport à la prison, je pense qu'il faut dire aussi une chose, c'est que au-delà d'être un territoire d'exclusion, au contraire, c'est vrai que c'est un lieu de fraternisation, qu'on peut appeler quasiment comme ça. Et si on se souvient bien un petit peu aussi dans l'histoire de l'islamisme, vous avez quand même un des pères de ce qu'on appelle le takfirisme, donc cette doctrine qui vise à excommunier l'impie, hein, dont se sert Al-Qaïda, mais particulièrement l'État islamique aussi. Le père du takfirisme, c'est Saïd Qutb, qui était donc un frère musulman qui a été donc enfermé hein, par Nasser dans une prison égyptienne et qui a été finalement qui est mort en martyr hein, pour les bien sûr pour les djihadistes puisqu'il se donc par pendaison en 1966 et là on a créé le mythe aussi de la prison. C'est-à-dire que la prison, c'est le lieu aussi où finalement peut éclore justement cette idéologie, le lieu où on peut avoir cette capacité à faire grandir l'idéologie. Hein. Et il y a de la propagande aussi, évidemment, qui se fait de prison en prison. C'est-à-dire qu'ils arrivent à créer quand même, par les réseaux sociaux aussi, eh bien, des tendances idéologiques qu'ils partagent de la prison.
Encore un mot sur les moyens déployés par les autorités françaises pour lutter contre le terrorisme islamiste. On a parlé des renseignements qui ont été renforcés, en prison notamment. Il y a la création du parquet national antiterroriste qu'on a déjà évoqué. Il a la charge déjà d'organiser les procès des attentats de ces dernières années. Le premier, c'est cet automne, je crois, pour une attaque ratée contre Notre-Dame de Paris, c'était en 2016, et puis l'an prochain, ce sera les grands procès des attentats de 2015. Il y a aussi, on l'a évoqué hier, l'attentat de Nice. Jean-Charles Brizard, vous en avez parlé lors de votre voyage en Syrie ces derniers jours. Est-ce qu'on sait où on en est sur l'enquête de l'attentat Nice? Est-ce qu'il y aura un procès de cet attentat?
De ce qu'on comprend de cette enquête, après 3 ans donc d'une enquête, très 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 fine des magistrats antiterroristes, c'est qu'en réalité un certain nombre d'individus ont été mis en examen, inquiétés parce qu'ils faisaient partie de l'entourage, ils avaient apporté un soutien logistique à l'auteur, à la Wajboulel, et en réalité on n'a pas pu établir, les magistrats n'ont pas pu établir à ce stade en tout cas, qu'ils avaient agi en connaissance de cause, c'est-à-dire connaissant l'intention terroriste de l'auteur de l'attentat. J'ajoute que 3 d'entre eux ont été remis en liberté. L'un d'entre eux s'est suicidé en prison. La perspective, malheureusement, c'est que on est susceptible d'aboutir à un procès qui ne serait pas un procès terroriste, alors qu'en réalité, là, on fait le procès quand même d'un attentat qui est un attentat majeur, on l'a dit, sur le sol français.
Qu'est-ce que vous avez appris en Syrie sur ce... sur cet attentat.
D'abord, avant de partir en Syrie, on avait le témoignage d'un djihadiste français qui a été remis à la France et qui faisait le lien entre l'attentat de Nice et les services des opérations extérieures de l'État islamique. Donc, c'est une piste intéressante, nouvelle aussi, que les parties civiles, notamment l'AFVT, l'Association française des victimes du terrorisme, a demandé aux magistrats d'explorer. Mon déplacement en Syrie et au contact notamment des autorités kurdes de Syrie, m'a permis d'apprendre d'abord que Adrien Guial, celui qui a revendiqué les attentats de Nice et qui est le plus susceptible finalement d'avoir des informations sur la manière dont Nice, l'attentat s'est organisé, si d'aventure il y avait un lien, existait un lien entre l'État islamique et cet attentat, c'est lui l'ayant revendiqué. Et on l'a vu dans le passé que les attentats de Paris, par exemple, du 13 novembre, Fabien Klein disposait d'informations préalables, d'autres acteurs également, de la même manière. Donc, celui qui peut évidemment confirmer ou infirmer cette piste n'est autre que Adrien Guial, qui est détenu aujourd'hui. Maintenant, reste à savoir de quelle manière les juges français vont pouvoir l'auditionner sur place. Ça va être extrêmement compliqué parce que les Kurdes de Syrie ne sont pas une entité juridique étatique. Donc voilà, on a discuté des éventuelles modalités d'une audition d'Adrien Guial sur lesquelles je ne voudrais pas m'étendre maintenant, mais les autorités, en tout cas kurdes, sont évidemment très ouvertes et désireuses d'aider la France sur ce sujet, s'agissant d'un attentat, encore une fois, majeur sur le sol français. Donc c'est une piste qui est explorée actuellement et qui est susceptible de déboucher sur une audition à plus ou moins long terme d'un des acteurs principaux des médias de l'État islamique, à savoir Adrien Guial, qui travaillait sous les ordres de Fabien Klein.
On suivra ça évidemment dans les mois qui viennent. Je voudrais qu'on parle de propagande. Hugo Micheron en a parlé tout à l'heure, évoqué tout à l'heure. Vous disiez, Hugo Micheron, que les quelques combattants de Daesh qui résistent encore, qui existent encore, sont errés dans des cellules clandestines en Syrie. Ils arrivent, est-ce qu'ils arrivent encore à porter leur propagande? Est-ce que cette propagande est encore active? Et si oui, est-ce qu'elle a changé par rapport à celle qu'on a connue ces dernières années?
Alors, en termes de volume, la propagande des djihadistes de Daesh a considérablement baissé. Et le tournant, c'est l'été 2016. C'est le moment où ils perdent du terrain, ils perdent Mossoul et ils commencent à perdre leur capacité de communication et notamment leur relation avec l'Europe. C'est aussi un tournant puis symbolique parce que ils perdent la petite ville de Dabiq qui est un hameau dans le nord syrien et qui avait donné son nom au magazine de propagande de Daesh en langue anglaise. Et c'est très important parce que dans la symbolique que mobilisaient les djihadistes à cette époque, Dabiq c'était la ville où allait se produire la fin des temps. Et donc du fait qu'ils aient perdu la ville sans par ailleurs combattre très férocement, discréditer totalement la propagande du groupe. Et donc ils ont changé les noms de leur magazine pour ne pas avoir assumé ce déboire. Et donc, encore une fois, en termes de propagande organisationnelle, c'est moindre. Maintenant, la diffusion des idées djihadistes est importante. Et là, la question de l'école que soulevait Anne-Clémentine Larocque me semble très importante. Un des individus que j'ai rencontré en détention, qui était un proche d'Amedi Koulibaly, l'auteur de l'attaque contre l'hypercachère du 9 janvier 2015, m'avait indiqué la chose suivante. Il considérait qu'il était la génération sacrifiée dans la mesure où il allait sortir de prison, être surveillé et toute sa vie probablement aller faire des allers-retours entre la prison et la liberté. Et il considérait finalement que le but c'était que ses enfants, quand ils auraient son âge, donc à peu près le milieu de la trentaine, ne se retrouvent pas en prison parce qu'ils seraient selon lui trop nombreux. Et donc toute cette phrase montre que leur accent est sur la transmission des idées djihadistes à leurs enfants. Et donc la question de l'éducation est centrale. Et là, ce qu'il faut observer, c'est l'augmentation des écoles hors contrat, donc sans contrat avec l'État, privées musulmanes, qui sont généralement gérées par des salafistes. Et là, il y a une augmentation du nombre. Le chiffre a doublé entre 2014 et 2016 pour le 93. Et donc ça, vous voyez, c'est tout à fait les mutations du djihadisme entre deux attentats qu'il faut pouvoir comprendre pour lutter contre cette idéologie.
Il nous reste une minute, Anne-Clémentine Larocque.
Oui, je pense qu'il y a deux points importants, Hugo vient de le dire. Oui, il y a des cycles aussi dans la propagande et finalement depuis la perte donc des territoires de Barouz en Syrie, on a quand même
au mois de mars,
voilà, on a quand même une volonté de la part donc des propagandistes de réhabiliter, de diffuser des vidéos. On en a quand même beaucoup plus dernièrement, notamment je vous l'ai dit par exemple le Sahel, etc. Ensuite, il faut revenir sur une chose, je pense, au niveau de ce qu'on peut appeler l'infraterrorisme ou du salafisme qui n'est pas donc du salafo-djihadisme nécessairement. Le discours salafiste peut aussi contribuer en France, bien sûr, à faire la bascule pour certains individus, par rapport donc à ce phénomène qu'est le terrorisme islamiste.
En un mot, Jean-Charles Brizard, est-ce que la propagande est surveillée? Est-ce que la contre-propagande aussi qui avait été mise en place fonctionne?
La propagande, oui, est surveillée, bien sûr, en France, ailleurs. On a parlé tout à l'heure d'Europol, qui a mis en place un service spécifique pour le signalement des contenus, notamment à risque, etc. L'Europe est en train d'adopter des dispositions très importantes. Ça, c'est une chose. Et puis, effectivement, elle progresse. Elle s'adapte également à ces mesures, malheureusement, la propagande. Et c'est l'essentiel. C'est le cœur finalement de cette menace qui pèse sur nous, cette menace djihadiste.
En tout cas, ce qu'on retiendra de cette discussion, c'est entre autres la mutation de ce phénomène djihadiste et du terrorisme que nous vivons maintenant depuis plusieurs années. Merci à tous les trois, Anne-Clémentine Larocque, maître de conférence à Sciences Po, Jean-Charles Brizard, président du Centre d'analyse du terrorisme, Hugo Micheron, docteur en sciences politiques en duplex d'Aix-en-Provence. Merci à nos amis de France Bleu Provence. Merci également à l'équipe du Grain à Moudre d'été, Marguerite Caton, Elodie Piel, Margot Leridon, Roxane Poulain et Valentin Berg. Réalisation Thomas Jost. Mise en onde, Laurie Vachon. Pour réécouter cette émission, franceculture.fr. Dans une minute, Matière à penser.